Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Kinshasa d'abord, le Nord Kivu et l'Ituri ensuite. Jean-Pierre Lacroix est en République démocratique du Congo cette semaine. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU vient discuter notamment de la manière dont les Nations Unies peuvent être utiles dans l'Est congolais. Dans ce journal également, la Tanzanie et l'Église catholique qui s'inquiète d'une répression qui touche en ce moment les opposants. Reportage à Libreville, la capitale gabonaise qui vit toujours au rythme des délestages et au son pour les plus riches des groupes électrogènes. On vous expliquera aussi pourquoi l'entreprise nationale de sucre au Burundi vient de tripler ses prix. Et l'on retournera en RDC pour notre dossier ce matin. On s'intéresse à la consommation de manioc et aux techniques employées pour le moudre de manière plus efficace. Le présent et le futur de la MONUSCO, voilà en bref le programme de Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, arrivé hier à Kinshasa et qui doit rester une semaine en RDC, alors que les autorités congolaises ont demandé le départ du pays de la force de l'ONU, qu'il n'y a plus de casque bleu depuis le mois de juin dans la province du Nord Kivu. En revanche, la MONUSCO est encore présente au Nord Kivu et en Ituri et elle entend participer aux initiatives de paix, correspondance de Passion Ligodi.
Cette visite intervient dans un contexte particulier où les tensions persistent dans l'est de la RDC. La mission onusienne a achevé en juin la première phase de son désengagement conformément à l'accord avec le gouvernement congolais en se retirant du Sud Kivu. Lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie congolaise, Jean-Pierre Lacroix a discuté des moyens par lesquels les Nations Unies peuvent continuer à soutenir les efforts de paix dirigés par João Lourenço visant à résoudre le conflit entre Kinshasa et Kigali. La tâche reste complexe pour la médiation angolaise, comme le reconnaît le chef du département des opérations de paix des Nations Unies.
C'est un processus qui comprend beaucoup d'enjeux, des sujets difficiles. Il est normal que les discussions soient approfondies et parfois suscitent des divisions, mais nous sommes fortement engagés à soutenir ces efforts de paix de la part des Nations Unies.
Jean-Pierre Lacroix rencontrera également les responsables de la mission de la SADC, SAMI RDC, au Nord Kivu. Début août, le Conseil de sécurité a autorisé la MONUSCO à fournir un appui logistique à cette force. L'une des questions centrales de cette étape est de savoir comment cet appui se concrétise dans un contexte où la communauté internationale privilégie les pourparlers de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'Angola. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et toujours à propos de la RDC, on apprend la mort d'au moins 4 des passagers d'une baleinière qui avait fait naufrage avant-hier dimanche dans la province de Kwango, c'est dans le sud-ouest du pays. Le vice-gouverneur de la province assure que près de 80 personnes ont par ailleurs pu être sauvées et des témoignages font état de plus de 150 passagers au total. Sachez aussi que l'ambassadeur congolais à Bruxelles a été convoqué par les autorités belges. La Belgique qui proteste après la condamnation à mort la semaine dernière de Jean-Jacques Wondo, ce citoyen belge condamné dans le procès de l'attaque du 19 mai dernier à Kinshasa, attaque qualifiée de tentative de coup d'État par les autorités congolaises, pour qui Jean-Jacques Wondo est considéré comme le cerveau de cette attaque.
RFI.
En Tanzanie, l'Église catholique s'alarme de la recrudescence des enlèvements et des tueries visant les membres de l'opposition. Réaction après la disparition de plusieurs opposants ces derniers jours. Le dernier en date, Ali Mohamed Kibao, un membre de la direction du parti Chadema, retrouvé mort après avoir été enlevé. Un meurtre qui fait suite à une vague d'arrestations ayant visé les militants de ce même parti. Les autorités tanzaniennes pointent, je cite, des gangs criminels. Mais la situation inquiète l'Église catholique. Écoutez ce qu'en dit le père Charles Kitima, porte-parole de la conférence des évêques de Tanzanie.
C'est une situation politique inédite comme nous n'en avons jamais connu auparavant. Des personnes ont disparu et nous ne savons toujours pas où elles sont. D'autres ont été tuées et leurs corps n'ont pas été retrouvés avant plusieurs jours. C'est comme si les groupes criminels étaient plus puissants que les citoyens. Alors les gens se demandent où est le gouvernement et que pouvons-nous faire ? Les évêques de Tanzanie sont donc inquiets car la volonté de Dieu de protéger la vie des citoyens n'est pas garantie. Les évêques ont donc appelé à la fin de ces violences car il s'agit d'une violation de la paix et les gens sont intimidés, ce qui n'est pas une bonne chose. Ces groupes criminels doivent être connus et traduits en justice conformément aux lois tanzaniennes. La présidente a déclaré sur Twitter qu'elle souhaitait qu'une enquête soit menée par les forces gouvernementales et nous avons besoin d'enquêteurs indépendants, non pas des forces de sécurité soupçonnées de ces violences. Voilà pourquoi nous sommes inquiets.
Charles Kitima, porte-parole de la Conférence des évêques de Tanzanie, joint par Christina Okello. Où trouver du sucre et surtout à quel prix? Question que beaucoup se posent aujourd'hui au Burundi. Le sucre, longtemps produit par une entreprise unique, la Sosumo, société sucrière du Mosso, et dont le prix était contrôlé. Mais le mois dernier, face à une pénurie sans solution apparente à court terme, les autorités de Gitega ont décidé de libéraliser le marché et d'autoriser donc et des entreprises privées sur le secteur, avec un premier effet quasi immédiat, une augmentation des prix, nous explique Esdras Sendikouman.
La production de la société sucrière du Mosso s'est effondrée au cours des 10 dernières années. Elle est passée de 23 000 tonnes en 2015 à 10 000 tonnes aujourd'hui. Entre-temps, le nombre de consommateurs a explosé sur fond de manque de devises pour en importer. Conséquence, le Burundi fait face à une sévère pénurie de sucre depuis des années. Il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement a donc décidé de libéraliser totalement son commerce pour y remédier. Les importateurs privés ont tout de suite augmenté leurs prix. La Sosumo, de loin le premier fournisseur du marché burundais, vient à son tour de revoir à la hausse le prix de son sucre qu'il a pratiquement multiplié par 3 et passe de 3 300 à 8 000 francs burundais. C'est pour s'aligner sur les prix des importateurs privés et pour tenir compte de notre coût de production, justifie le patron de cette entreprise, le général Aloïs Naïkengurukié, qui promet de multiplier par deux sa production sucrière. Aux grandes dames de la population burundaise, qui a vu les prix de tous les biens de première nécessité exploser au cours des 3 dernières années, même si, et c'est un louf de soulagement dans toute cette grisaille, le carburant est de nouveau disponible après des mois de pénurie.
Esdras Ndikoumana, une entreprise publique dans la tourmente aussi au Gabon, c'est la SEG, la Compagnie Nationale d'Électricité, pointée du doigt pour sa mauvaise gestion. Le président de la transition, le général Oligui, vient d'ailleurs de limoger l'équipe de direction et de placer une administration provisoire à la tête de la société. Mais en attendant, les délestages ne cessent pas et les Gabonais se débrouillent comme ils peuvent. À Libreville, reportage d'Yves-Laurent Goma.
L'électricité vient de se couper au PK10. Michel Didier Kobe vient aussi de démarrer son groupe électrogène.
Il supporte toutes les charges à la maison. J'ai un frigidaire, un congélateur, un téléviseur, des ventilateurs. Tranquillement, il supporte.
Enseignant au lycée technique, il a investi environ 250 000 francs CFA.
Le réservoir a une capacité de 7 litres d'essence. Donc, puisque les coupures varient entre 2 et 4 heures, c'est largement suffisant.
Mais tous les Gabonais n'ont pas les moyens de s'offrir un groupe électrogène.
La nuit, non seulement il y a la chaleur, il y a des moustiques et c'est pas la joie. C'est l'enfer que nous vivons en ce moment.
C'est ce qu'on subit tous les jours et ça stresse les gens.
Après avoir installé le nouvel administrateur provisoire, nommé pour redresser l'entreprise pendant les 6 prochains mois, le ministre de l'Énergie, Jeannot Kalima, a rassuré les populations.
Avec toutes les dispositions qui sont prises, des facilités qui sont octroyées à la SEG par le chef de l'État, la SEG va très rapidement apporter des solutions à nos préoccupations.
Pour résoudre le problème, les militaires au pouvoir ont débloqué 100 milliards de francs CFA au profit de la SEG. Ils ont aussi mis à disposition des groupes électrogènes pour produire davantage d'électricité. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Après l'Allemagne le mois dernier, ce sont les États-Unis qui annoncent la fin du retrait de leurs militaires et du Niger, volonté des autorités de la transition à Niamey. Alors que Washington avait fermé sa dernière base dans le pays le mois dernier, les États-Unis désormais font savoir que tout s'est passé sans complication, je cite, et que tout leur personnel militaire est désormais hors du Niger. Le football, c'est en quelque sorte une répétition avant la CAN de 2027. La Confédération africaine de football vient de dévoiler le calendrier du prochain CHAN, organisé donc lui aussi par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Ce sera du 1er au 28 février prochain. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs qui évoluent sur le continent africain. Mais pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, ce n'est pas une compétition au rabais.
Par le passé, certains pays faisaient le choix de ne pas participer au CHAN. Nous avons changé cela, parce qu'on ne peut pas dire « j'aime cette compétition, mais pas celle-là ». Il faut participer à toutes, même si les joueurs qui évoluent hors du continent ne sont pas là. C'est dans ces moments-là que nous devons permettre à nos joueurs africains les plus talentueux de dire à leurs entraîneurs « peut-être que je ne joue pas en Europe, mais je suis quand même aussi bon que n'importe quel joueur du monde ». Donc c'est aussi pour cela que j'ai augmenté la dotation de la récompense. Ces joueurs du CHAN sont les futurs vainqueurs de la CAN, et nous avons toujours déclaré ouvertement qu'une partie de notre plan réside dans la confiance que nous avons qu'un jour, un pays africain remportera la Coupe du Monde.
We'll be champions of the FIFA World Cup.
Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, au micro de Gaël Lalex. Et puis avant de retrouver Nathalie Amar dans 3 minutes, notre dossier ce matin, que mange-t-on à Kisangani, la grande ville du nord de République démocratique du Congo? On y mange du manioc principalement, et on en mange tellement qu'une nouvelle technique de broyage de ce légume a été inventée. Le pondou et les machines à pondou ont fleuri un peu partout dans les rues de la ville, venant remplacer les traditionnels mortiers en bois. Reportage de Joseph Kaongo.
Au croisement de deux artères très fréquentées de Kisangani, Antoinette, propriétaire d'un restaurant, est venue faire broyer ses légumes à la machine à pondou. Tous les jours, c'est plus de 15 bottes de feuilles de manioc qui sont consommées par ses clients.
Après avoir nettoyé les feuilles de manioc avec de l'eau chaude, nous venons ici pour les broyer à la machine. Auparavant, on le faisait avec le mortier. C'était fatigant et lent. Mais avec la machine, c'est très rapide.
Isaac Saïdi est le propriétaire de la machine à broyer. Il a jusqu'à 20 clients par jour.
À Kisangani, le pondou est très consommé. C'est pourquoi on a fabriqué ces machines qui sont un peu partout pour faciliter le broyage. Le prix dépend de la quantité des feuilles de manioc. J'ai beaucoup de clients. Les restaurants et les ménages sont nombreux à cet endroit. Je fais jusqu'à 15 ou 20 000 francs de recettes par jour.
Souvent, je touche les 20 000 et 15 000.
Le broyage fini, Antoinette retourne à la cuisine de son restaurant. Après 2 heures de cuisson, la sauce feuille est prête et servie. Chamani est un des clients fidèles.
Le pondou est consommé par tous les Congolais, riches ou pauvres. C'est un légume bio. Moi, je mange le pondou tous les jours que Dieu a fait. Ici, au restaurant, tous les plats se font accompagner de pondou.
Accompagné du riz ou du foufou, le pondou demeure et encore pour longtemps, le légume le plus apprécié à Kisangani. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
Alors bio ou pas, comment expliquer cette forte consommation des feuilles de manioc à Kisangani et quels sont les bienfaits de ce légume très apprécié en RDC? Pour Dominique Sekouma, qui est nutritionniste au sein de la division santé de la province de la Tchopo, les arguments ne manquent pas.
Les feuilles de manioc sont disponibles à toutes les saisons à Kisangani. Les feuilles de manioc peuvent être achetées à moindre coût. La population accepte de consommer ça. Même ça y ajouter lors de la préparation, la viande ou les poissons. Pour l'importance nutritionnelle, les feuilles de manioc, comme tous les légumes, ce sont les aliments consommés pour protéger le corps. Partant des nutriments, le feuille de manioc est riche en vitamine A et en sels minéraux. Ici, nous pouvons mettre un accent particulier sur le fer qui augmente le taux de l'hémoglobine. Donc, c'est un élément très important, surtout chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et pourquoi pas les enfants à l'âge de croissance. Le feuille de manioc est également riche en fibres.
Le nutritionniste Dominique Sekouma au micro de notre correspondant à Kisangani, Joseph Kaongo, Kisangani en RDC, où il est maintenant 8h44. Et vous êtes avec Nathalie Amar pour la suite des RFI Matin.